Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé, les rencontres de l'heure.
Alors, nous sommes avec Joseph Facal. C'est le vendredi, on parle de cinéma. Et Joseph a eu une excellente idée de parler des films de procès. Pourquoi? Ben, O.J. Simpson est mort. Et qui dit O.J. Simpson dit procès. D'ailleurs, est-ce que tu avais suivi ça, toi, à la télévision, Joseph?
Richard, par où commencer? Je le confesse, j'étais devenu addict. J'étais scotché devant la télévision. Premièrement, je le confesse, aujourd'hui, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais tu sais que je suis un fan fini de football américain. Et dans les années 70, avant qu'on découvre le visage caché d'O.J. Simpson, il fut probablement le plus grand porteur de ballon des années 70, en plus d'être un mec qu'on trouvait sympathique parce qu'on ne connaissait pas toute la réalité du personnage. Et quand, évidemment, je me rappelle, j'oublierai jamais, quand on a vu pour la première fois la poursuite filmée par l'hélicoptère de la Bronco Blanche, je me suis installé et j'ai suivi ce procès. Richard, t'as pas idée, le gant trop petit, la dignité de la famille Goldman, ces personnages absolument hors du commun, Cato Kaelin, tu te rappelles, le hippie qui habitait dans le fond du jardin, le juge Ito qui avait l'air complètement dépassé, l'avocat, le père des Kardashians d'aujourd'hui, c'est extraordinaire, tu te rappelles, avocat noir, plaideur,
Johnny Cochran,
celui qui avait dit « If the glove don't fit, you must quit ». Avec les foules à l'extérieur, c'était un show extraordinaire. Et pendant que je préparais notre émission, Richard, je te lance une balle courbe. Comment ça se fait qu'on n'a pas encore fait un grand film sur cette histoire-là?
On a fait une série extraordinaire avec Cuba Gooding Jr. qui joue O.J. Simpson sur le procès. C'est extraordinaire. Vraiment, Et c'est à voir. Je crois que c'est sur Crave, si je ne me trompe pas. Ça s'intitule American Crime Story, The People versus O.J. Simpson. Et c'est vraiment très, très bon. C'est une histoire. Est-ce que, rapidement, là, j'ai posé la question tantôt à Félix, je te pose à toi. Est-ce que tu es pour, toi, les caméras dans les cours de justice?
Eh, mon Dieu! Le côté voyeur en moi, et que nous avons tous, a très, très envie de répondre oui. Mais si le but est de parvenir à une décision aussi froide que possible, ce qui implique évidemment séquestration du jury, ainsi de suite, alors là, j'aurais tendance à répondre plutôt non. Car à partir du moment où il y a des images, il y a déformation, il y a talk show, il y a commentaires incessants, et ça participerait à une hystérisation de la cause. Déjà qu'on a les réseaux sociaux où les gens disent tout et n'importe quoi, j'inclinerais vers une prudence autour du respect de la procédure et du décorum actuel. Donc, je te dirais globalement non.
Mais le côté éducatif, par contre, les gens comprendraient mieux, je crois, le système de justice. Ils comprendraient mieux, par exemple, la présomption d'innocence. Peut-être, écoute, je suis allé voir récemment une pièce de théâtre intitulée Verdict, et c'était les plus grandes plaidoiries de l'histoire du Québec, jouée par trois comédiens. C'était passionnant aussi, là, des plaidoiries, t'apprends énormément.
Ouais, Richard, mais rappelle-toi, on a longtemps cru que la télévision serait un instrument de culture populaire et d'éducation. Comme je me rappelle l'époque où, quand l'Internet est apparu, on s'était tous dit « Wow, une cyber-démocratie citoyenne ». Ben, nos espoirs ont été déchus. Hein? C'est surtout devenu un freak show. Mais je craindrais que la télévision transforme en cirque ce qui doit demeurer un exercice serein et aussi peu passionnel que possible.
D'ailleurs, le juge Ito, là, du procès de O.J. Simpson, il jouait pour la caméra. Le gars, il se prenait pour un comédien. Oui. Là. Il parlait même plus aux jurés et aux gens qui étaient là. Il regardait la caméra puis il jouait à la caméra. Là.
Déjà qu'un tribunal et les films dont on va parler l'illustrent. Tu sais, un tribunal, c'est déjà dramatique. T'as quelqu'un qui joue sa vie, t'as des témoins surprises, t'as des révélations, ça se prête bien à des envolées oratoires. Si par-dessus ça, tu rajoutais l'effet thermonucléaire de la télévision, je craindrais vraiment de sérieux dérapages. Ici, je serais pour le principe de prudence et de précaution.
Alors, des films de procès, bien sûr, le film de procès, c'est 12 Angry Men, le premier long-métrage du grand ciné Lumet. On regarde peut-être un extrait de la bande-annonce.
On the point of that knife, a man's life is at stake.
I'm just saying it's possible.
And I say it's not possible.
Alors, Joseph, il y a un jeune qui est accusé de meurtre. Et là, tout le monde, tous les jurés sont en train de délibérer. 11 jurés, tout de suite, c'est sûr que c'est lui qui l'a fait. Henry Fonda dit, ben moi, je dis non. Et là, les 11 le regardent. Pourquoi tu dis que non? Tu crois vraiment que le gars est innocent? Il dit non, parce que je veux qu'on prenne le temps de jaser. Je veux qu'on prenne le temps d'en parler. C'est pas vrai qu'on va régler son cas en 2 minutes. Moi, je dis non pour le principe et rien que pour qu'on puisse voir les choses sous différents angles. Et évidemment, c'est une pièce de théâtre très connue. Il réussit, ce gars-là, à faire changer d'idée les 11 autres jurés et à la fin, bien sûr, les 12 l'acquittent. C'est un classique, là.
Richard, c'est un film parfait.
Oui.
Et je prends ta balle au bon. Tu disais tout à l'heure, est-ce que la télévision ne pourrait pas jouer un rôle éducatif pour expliquer aux gens le fonctionnement du système de justice? Diffuse ce film. Fais de ce film un visionnement obligatoire. Tiens, mettons, dans ce film, dans ce cours culture et citoyenneté québécoise qui est supposé commencer à l'automne et qui va remplacer éthique et culture religieuse, introduit ce film en programmation obligatoire. Est-ce qu'il y a plus belle explication de la nécessité de se calmer le pompon, d'examiner les faits, de ne pas sauter trop rapidement aux conclusions, de ne pas condamner quelqu'un simplement parce que comme jury, on est séquestré, puis on a juste donc bien le goût de rentrer à la maison. Non, c'est grave, il faut se calmer, il faut ne rien prendre pour acquis, puis il faut parvenir à une décision sereine et éclairée. Ce film est un bijou pédagogie sans être gnagna et d'humanisme. Et
Henry Fonda, sur l'importance du doute. L'importance Exactement. Du doute. Tu sais, lui, il fait entrer, il plante la graine du doute chez ces gens-là. Et soudainement, on pense des fois qu'on a des convictions solides et que quand on remet en question nos convictions, on voit qu'il y a des failles. Et comme disait Leonard Cohen, il y a des failles en toutes choses. Et c'est ça. C'est par là que entre la lumière. Vas-y de ton premier film, Joseph.
Ben, tiens, tu parlais toi-même de Sidney Lumet. Alors, je te relance. En 1982, Sidney Lumet, qui a pris du coffre comme réalisateur, nous livre The Verdict. Et Paul Newman, là-dedans, est colossal.
Tristan, est-ce qu'on a un extrait de la bande-annonce The Verdict? On regarde ça.
I got you a good case. It's a moneymaker.
The archdiocese called up because the case is coming to trial.
This is our chance to get away.
I'm going to see that you get that chance. Court exists to give them a chance at justice.
And is that what you're going to do?
Maybe I can do something right.
Joseph Scénario du grand, du géant, du David colossal Mamet. David Mamet, celui qui avait écrit la pièce Glengarry Glen Ross. Alors, le scénario est incroyable. Parle-nous de ce film-là.
C'est un des plus beaux rôles de Paul Newman. Le scénario est extraordinaire. La réalisation est sublime. Et comme si c'était pas assez, on a en plus le plaisir de voir Charlotte Rampling. Alors, c'est pas compliqué. C'est un avocat déchu, devenu alcoolique, au bout du rouleau, ce que les Américains appellent un ambulance chaser. Et par pitié, son vieux mentor lui donne une cause. Essentiellement, c'est une jeune femme qui a sombré dans un coma lors de son accouchement parce qu'on lui a donné une mauvaise anesthésie. Ça se passe dans un très puissant hôpital catholique. Alors évidemment, l'hôpital offre un montant pour régler hors cours, mais lui, l'avocat, dit « Non, non, on va refuser l'argent, on va les poursuivre pour négligence médicale et on va gagner. » Sauf qu'évidemment, il doit affronter un très puissant bureau d'avocats qui est prêt à tout. Et à travers tout cela, évidemment, il y a une histoire d'amour qui n'est pas tout à fait celle que l'on pense être à première vue. Je n'en dévoile pas plus pour ceux qui n'ont pas vu ce film, mais The Verdict 1982 de Sidney Lumet avec Paul Newman qui est colossal. De mémoire, je crois qu'il s'appelle Frank Galvin et il joue le gars au bout du rouleau qui, comme Rocky, a une dernière chance de se racheter. Mais évidemment, les parents de la jeune fille, eux, veulent le règlement hors cours pour avoir l'argent qui permettrait de soigner leur fille. Mais lui joue le tout pour le tout, un film extraordinaire.
Et Paul Newman n'était pas le premier choix de Sidney Lumet. Lumet avait approché plein de comédiens et aucun comédien voulait jouer un gars alcoolique. Aucun. Il avait approché, entre autres, Robert Redford, qui protégeait son image de beau gosse et tout ça. Il dit, moi, jouer un alcoolique fini, absolument pas. Donc, Paul Newman a accepté. Et, je sais pas s'il avait gagné l'Oscar pour son interprétation, mais il est absolument magistral. Un film récent, un film français de Cédric Kahn qui s'intitule Le procès Goldman que j'ai vu. On a un extrait de la bande-annonce, Tristan.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants. D'avoir, le 19 décembre 1969, attaqué à main armée une pharmacie 6 boulevard Richard Lenoir à Paris. Homicide volontaire sur deux pharmaciennes. Vous êtes ce qu'on appelle un insoumis.
Révolutionnaire dans l'âme.
Monsieur Goldman, peut-on vous qualifier de gangster?
Oui.
Et d'assassin?
Non, certainement pas.
Alors voilà un meurtre qui s'est produit en 69. Le procès était en 75. Alors Pierre Goldman était une figure légendaire de l'extrême gauche. C'était un peu comme un felkiste, OK? Là-bas en France, il braquait des commerces pour financer finalement sa cause. C'était des gens qui étaient marxistes-léninistes, qui voulaient la révolution et tout ça. Et Pierre Goldman aurait tué deux pharmaciennes lors d'un braquage. Et c'était son procès. Ça se déroule seulement dans le tribunal. On n'en sort jamais du tribunal. Et lui tend à dire, je suis un prisonnier politique. Vous voulez me mettre en prison pour mes idées et non pour les meurtres. Je n'ai jamais tué ces femmes-là, mais vous voulez m'emprisonner. Et c'est tout un débat hyper brillant sur jusqu'où aller quand tu as une cause. Qu'est-ce qui est un prisonnier politique? Qu'est-ce qui est un prisonnier de droit commun? Si c'est un procès de cette gauche-là qui était tentée par la violence, beaucoup. C'est à l'époque, là, tu sais, il y avait les Felkis, les Maoïs et tout ça.
Les Brigades Rouges en Italie.
Les Brigades Rouges en Italie, les années de plomb avec la bande Abadère en Allemagne, etc. Et donc, c'est un portrait de cette époque-là. Et le comédien principal, son nom m'échappe, il est extraordinaire. Vraiment, vraiment à voir.
Mais Richard, je connais évidemment la figure de Pierre Goldman, mais je ne connais rien de ce film que je n'ai pas vu. C'est qui le réalisateur de ça?
Cédric Kahn, il a fait de plusieurs excellents films en France et il a fait ce film-là et ça a été un triomphe là-bas en France. C'est sorti, je crois, l'an dernier, en 2023, je ne sais pas.
Il faut absolument que je mette la main là-dessus.
Écoute, c'est vraiment super bon. Alors, bien sûr, quand on dit procès, on pense à Philadelphia, le super film de Jonathan Demme avec Tom Hanks. On regarde un extrait de la bande-annonce.
How are you? What happened to your face?
I have AIDS.
Oh. I'm seeking representation.
You want to sue Wyatt, Wheeler, Hellerman, Tetlow, and Brown?
I was diagnosed with AIDS 8 months ago during a bout with pneumonia.
What's that in your forehead, pal?
Andy, everyone in this room is your friend.
I misplaced an important complaint. That's their story.
We've been talking it over. Your future, that
hey,
is.
And vraiment, là, est-ce que tu peux imaginer deux meilleurs acteurs que Tom Hanks et Denzel Washington? Vraiment.
Oui, 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 plus Jason Robards, qui a le don pour jouer les rôles de méchants, et la glaciale Mary Steenburgen, qui est la beauté au service du mal, une actrice sur laquelle j'ai, ben oui, je le sais, une autre de ces actrices sur lesquelles j'ai capoté pendant des années, et bien entendu, la chanson thème de Bruce Springsteen, qui est envoûtante, lancinante, mais, pour le bénéfice de ceux qui nous écoutent et qui ne l'auraient pas vu, il faut se remettre dans le contexte de l'époque pour comprendre ce film. On est au début des années 90. Le sida est une maladie peu connue. Elle est entourée de préjugés. C'est l'époque où l'on croyait que ça pouvait se transmettre par une poignée de main. C'était l'époque où des jokes absolument homophobes étaient beaucoup plus courantes qu'aujourd'hui. Et donc, Tom Hanks est un jeune et brillant avocat qui contracte le sida et cache son homosexualité. Et il commence à avoir une marque dans le front, tu sais, le syndrome de Kaposi, et il fait croire que c'est un accident de squash. Et donc, il est congédié pour incompétence, alors qu'en fait, on a caché des documents pour le faire mal paraître. Et lui se dit, non, ça c'est un congédiement abusif, je vais contester, et bien entendu, aucun avocat ne veut prendre sa cause, jusqu'à ce qu'arrive Joe Miller, qui est à peu près le 15e avocat que Tom Hanks consulte, et qui lui a tous les préjugés de l'époque contre le sida et les homosexuels. Et là, véritablement, c'est le choc de deux mondes. Tom Hanks est le jeune yuppie preppy qu'on imagine sorti de Harvard ou de Yale, et Denzel Washington est le jeune noir hyper brillant qui a monté à la force du poignet, et donc les deux
homophobes un peu là aussi là.
Ah, absolument.
Denzel Washington homophobe et qui est obligé de défendre un gars, non seulement un gay, mais un gay qui a le sida. On le voit dans la bande-annonce, hein, il vient pour essayer la main, puis il retire sa main, là.
Et il y a une scène à la fin, vers la fin, quand le personnage de Tom Hanks est mourant, où sa grande passion, c'est l'opéra. Il y a cette scène qui clôt presque le film où il écoute l'opéra, le volume au max, et il lui dit, écoute ce passage. Et là, il y a une communion entre ces deux énormes acteurs. C'est un film colossal.
T'oublies un des personnages principaux très importants de ce film-là, qui est la ville de Philadelphie. On la voit, qui est une ville décrépite, une ville vraiment là, des problèmes de drogue, des taudis partout et tout ça. Et tu sais, c'est la ville tombe en morceaux et lui, son corps tombe en morceaux aussi avec la chanson envoûtante de Springsteen. C'est un film colossal.
Est-ce que tu te rappelles cette scène où Denzel Washington est en train de préparer le souper avec sa blonde et leur fille, puis sirote une coupe de vin rouge comme ça, puis Denzel Washington commence à imiter un gay dans ce que ça peut avoir de plus caricatural. Et là, on voit effectivement les préjugés, tu sais, d'un gars de son époque. Et bon, mais il surmonte ça. Et tel que je le décris, ça peut avoir l'air cucu. C'est un grand, grand, grand film.
Et c'est un grand réalisateur qui pue avec nous, malheureusement. Oui. Nous sommes tous des condamnés à mort. Tous, nous allons être exécutés. Parce qu'on va tous mourir et Dieu est notre juge. Il va tous nous tuer pour un crime qu'on ne sait pas lequel crime on a commis. Je parle bien sûr du procès de Kafka, le fameux livre de Kafka qui est extraordinaire, qui est un procès, c'est un film, un roman métaphorique, existentiel, philosophique. Et le grand Orson Welles, toi ton cinéaste fétiche, c'est Stanley Kubrick. Moi c'est Orson Welles, là.
Okay,
et qui a porté à l'écran. C'est un tour de force. Le roman, le classique de Kafka. On peut regarder un extrait de la bande-annonce, Tristan.
Quite honestly, I can't remember a single offense that could be charged against me.
But the real question is, who accuses me?
Les cadrages d'Orson Welles. Alors, il joue dedans et réalise. Orson Welles met toujours sa caméra un peu en contre-plongée. On voit les plafonds avec des lentilles qui déforment un peu des fisheye avec une profondeur de champ incroyable. C'est vraiment baroque. Hein? C'est le grand cinéaste baroque. Et c'est un gars, Anthony Perkins, qui est accusé de ne sait pas trop quoi. Il y a des gens qui viennent le voir, puis il est accusé, il doit se défendre dans un procès. Il ne sait pas de quoi, quelles sont les charges qui pèsent contre lui. Et à la fin, il est exécuté. Bien sûr, c'est une métaphore, comme je le disais au début, on est tous des condamnés à mort et Dieu nous juge. Il va nous envoyer à la potence. Et c'était tourné dans la gare d'Orsay. La gare d'Orsay, elle était fermée, elle était abandonnée. C'est devenu maintenant le musée d'Orsay à Paris, qui est magnifique. Ouais. Et c'était vide. Et Orson Welles là, est entré là-dedans et a fait des décors, mais des décors de fou. Te souviens-tu, toi, parce que le personnage travaille dans un bureau et t'as comme des milliers de petits pupitres avec des gens devant une machine à écrire. C'est spectaculaire, là.
Alors, écoute, c'est un film extraordinaire. Et hey, tu me renvoies à ma jeunesse, au cinéma Cartier à Québec. Ah non, c'est un film extraordinaire. Puis, écoute, Anthony Perkins, que la plupart des gens associent évidemment à Psychose, il a cette espèce de maigreur. Il est émacié, il est pâle. Il a un côté Pierrot Lunaire un peu perdu. Il est parfait pour jouer ce rôle de l'innocent, du gars qui ne comprend pas. C'est un merveilleux film.
Avec Romy Schneider, qui est fantastique.
Ah, oui.
Et si on a le temps, ben rapido, presto, écoute, tu veux parler d'un autre film, toi, qui est To Kill a Mockingbird, rapidement.
Ah, oui.
Est-ce qu'on a un extrait de la bande-annonce? On peut regarder ça.
Never took place. It has relied instead upon the testimony of two witnesses, whose evidence has not only been called into serious question on cross-examination, but has been flat.
Un film sur le racisme basé sur un roman culte de Lee Harper.
Ah oui. Alors, le roman de Harper Lee est pour Harper les Lee. Américains ce que Mario Chapdelaine est dans la littérature québécoise. Alors, on est vraiment dans le Deep South, en Alabama, dans les années 30. Et la particularité, c'est que le film, comme le roman, tout est raconté à travers les yeux de la fille de Atticus Finch, l'avocat joué par Gregory Peck, qui est veuf. Alors, évidemment, il défend un noir faussement accusé du viol d'une jeune fille, et au terme d'un procès absolument scandaleux, l'accusé est condamné et il est même pendu pendant le transport à la prison. Mais pendant le procès, l'avocat a trouvé quand même le moyen de ridiculiser le père de la jeune fille et de clairement faire sentir que c'est lui le vrai coupable, même si le faux accusé est condamné.
Ah oui.
Et donc celui-ci, humilié, veut s'en prendre aux enfants de l'avocat. Mais surgit Beau Finley, le premier rôle de Robert Duvall au cinéma, qui joue un peu, tu te rappelles, l'idiot du village.
Oui, oui, oui.
Et il y a cette scène extraordinaire où Gregory Peck, l'avocat, tire avec la carabine un chien qui a la rage, mais il est vu à travers les yeux de sa fille.
C'est ça,
donc,
et c'est ça.
Et à la hauteur du sol, tu sais.
Et c'est comme le roman, c'est vu ça par les yeux d'une petite fille qui découvre le racisme.
Exactement.
Alors, c'est absolument magnifique. Donc, en français, elle ne tirait pas sur l'oiseau moqueur, je crois que ça s'intitule.
Ouais. C'est probablement un film qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui de la même manière, car il serait accusé de javeliser le racisme dans l'Alabama des années 30 et de présenter le blanc comme le sauveur. Mais dans le contexte de l'époque, c'est un merveilleux.
Et tu sais que le livre de Harper Lee a été retiré de certaines bibliothèques aux États-Unis parce qu'on dit que c'était un livre raciste qui est complètement débile. Bon week-end, mon cher Joseph.
Allez,
salut.
Merci. Faut que je trouve le procès Goldman.
Le procès Goldman. Salut.